Nous lirons d'abord les versets 12 à 13 et 23 et 20, et 20 à 25. Voilà, excusez-moi. Donc, le chapitre 1 du livre de la Genèse, c'est le grand poème qui dit quelque chose à comprendre de ce qu'est la création. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon ses espèces et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour. Donc plus tard, à partir du verset 20, Dieu dit que les eaux brouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller selon leurs espèces, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Pour le second texte, nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 26 à 34. C'est un extrait de ce qu'on appelle le sermon, le discours sur la montagne qui commence avec les béatitudes. Jésus s'adresse à la foule, aux disciples, à ses disciples qui sont rassemblés là. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant je vous dis que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Ou bien, qu'allons-nous boire ? Ou bien, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que cherchent les gens de toutes les c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. De quoi donc, chers amis, Jésus parle-t-il en donnant l'exemple des oiseaux et des lys? Nous pourrions par exemple tenter de le comprendre avec l'aide des titres que les différentes traductions de la Bible donnent à ce passage. Par exemple, dans la version de la Bible en français courant, il y a une exhortation. Ayez confiance en Dieu. Évidemment. Mais c'est un titre qui pourrait être posé sur tellement de passages de la Bible que cela ne nous avance guère à comprendre ce que racontent les lys et les oiseaux. Dans la traduction « Parole de vie », celle qui est en français fondamentale, on trouve une affirmation assez massive. « Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie ». Ce qui nous posera problème dès que nous serons sortis de ce temple. Lorsque passant dans la rue et celle aux alentours, nous verrons tant d'hommes et de femmes qui n'ont pas de ressources ni pour se nourrir, ni pour se vêtir, ni pour se loger. Sans oublier tous ceux qui manquent de soins, de sécurité ou de respect et qui en meurent. Dieu ne leur aurait-il donc rien donné? Ou peut-être ont-ils tout dilapidé? Parce que pour se retrouver ainsi démunis, il faut bien qu'ils soient coupables de quelque chose quand même. Dans le prolongement de ce titre, d'autres traductions de l'évangile de Matthieu, surtout catholiques, posent en surplomb de ces versets un mot assez impressionnant, la providence. Nous pourrions alors comprendre que Dieu s'occupe de tout. Et c'est ainsi qu'est assez communément comprise la notion de providence. Reste alors qu'il faut quand même se débrouiller avec tout ce qui se passe dans le monde, ou simplement dans cette ville. Se débrouiller également avec la notion d'un Dieu forcément tout-puissant pour s'occuper de tout. Et si Dieu s'occupe de tout, c'est bien qu'il a tout prévu. Alors il n'y a plus rien à dire devant ce qui se passe. Sinon, c'est chiner quand même à trouver des explications au pourquoi de tant de malheurs et de misères, si Dieu Tout-Puissant s'occupe de tout. Pourquoi Dieu s'en occupe si peu? Et à quoi sert sa toute-puissance si ce n'est pas à vaincre le mal? Pourquoi Dieu ne met-il pas entre parenthèses les lois de la physique, de la biologie, de la physiologie pour résoudre au moins quelques-uns des nombreux désastres qui frappent les humains? Pourquoi Dieu n'influence-t-il pas de manière un peu plus positive et bénéfique les esprits afin que les décisions et les comportements ne conduisent pas aussi souvent à des drames ou des catastrophes? Chers amis, il faut quand même lire un peu plus que ce seul passage de l'évangile de Matthieu, par exemple le reste du discours sur la montagne, voire même tout l'évangile, pour se rendre compte que Jésus ne parle pas d'un Dieu tout-puissant. Jésus parle, et particulièrement dans ce grand discours dont est extrait le passage des lys et des oiseaux, Jésus parle d'un Dieu tout généreux, un Dieu de toute bonté, de tout amour. Et c'est-à-dire que la générosité, la bonté, l'amour ne sont soumis à aucun critère et à aucune condition. Si nous n'avons pas à nous inquiéter de quelque chose, c'est bien des limites de la bonté et de la générosité de Dieu pour nous ou pour autrui. Il n'y en a pas. Et nous n'avons pas non plus à lui transférer ces fantasmes de toute puissance qui hantent nos imaginaires pour nous rassurer de maîtriser si peu de choses dans le cours de nos existences. Un Dieu qui se manifeste dans un crucifié ne tient manifestement pas à la toute-puissance. Il nous reste alors dans nos Bibles quelques titres qui vont de l'inquiétude à les inquiétudes en passant par les soucis. Ceux qui ont décidé de ce genre de titres, les éditeurs des Bibles, pas les rédacteurs des évangiles, ceux qui ont décidé de ce genre de titres n'ont visiblement pas voulu beaucoup s'engager dans une interprétation quelle qu'elle soit. Une prudence qui peut quand même nous faire réagir, parce que comment serait-il possible de vivre sans s'inquiéter ? S'inquiéter de celles et ceux qui sont dans la rue. S'inquiéter de celles et ceux qui manquent du nécessaire. S'inquiéter de tous ceux qui vont mal. Comment habiter le monde sans s'inquiéter ? Sans entendre les inquiétudes légitimes de ceux pour qui le présent est une souffrance et de ceux pour qui l'avenir semble bouché. Et puis Jésus exhorte ses disciples, les foules, les lecteurs de l'évangile de Matthieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. De quoi Jésus parle-t-il donc avec cet exemple des oiseaux et des lys? Il demande de les observer. Alors finalement, de quoi parlent les oiseaux et les lys? Les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas, ne remplissent pas de granges. Ça, ce sont les humains qui le font, et heureusement qu'ils le font. Les oiseaux, eux, ils volent dans le ciel, ils construisent des nids, ils mangent les insectes et les graines quand ils les trouvent. Les oiseaux font leur vie d'oiseaux. Ils font ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire finalement, voler, construire les nids, manger. Les lys, eux, poussent là où ils sont plantés, ils grandissent, ils déploient leur beauté dont ils ne savent rien, ils font leur vie de lys. Ils font ce qu'ils peuvent faire, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est tout. Et en même temps, ajoute Jésus, tout cela a une fin. Avec le feu, la faux du moissonneur est passée, et le lys est jeté dans le feu. Ou alors la sécheresse, le manque d'eau, ou une tempête un peu forte. Plus d'oiseaux, plus de lys. Un chat, un chasseur, un piège, plus d'oiseaux. Un épandage de désherbants, de pesticides, plus de lys. Peut-être Jésus exhorte-t-il ses disciples à vivre leur vie d'humain, comme les oiseaux vivent leur vie d'oiseau et les lys leur vie de lys. Jésus exhorte ses disciples à faire ce qu'ils peuvent faire dans le temps qui est le leur sur terre et dont ils ignorent le terme. Et ce n'est pas n'importe quoi qu'être humain. Ce n'est pas seulement se nourrir et se vêtir, ce n'est pas non plus s'inquiéter de soi au point d'en oublier ce que signifie être humain devant Dieu, en relation toujours. Ce n'est pas non plus repousser à force d'accumulation la peur de manquer au point d'en oublier le partage. Regardez les oiseaux et les lys, dit Jésus. Leur durée de vie si courte, leur extrême vulnérabilité. Certes, la durée de vie de l'humain est plus longue, en moyenne. Sa vulnérabilité un peu moindre. Mais l'humain n'en est pas moins affronté à ses limites, celles de la condition humaine, le manque et la mort. La vie d'un humain, c'est d'assumer ses limites, c'est-à-dire de les reconnaître et de les accepter librement. C'est-à-dire de décider que ces limites, le manque, la mort, ne seront ni l'aimant, ni la boussole, ni le soleil, ni l'horizon de l'existence. Chercher à repousser ou à supprimer les limites dans des rêves de technique, comme ceux que promet le transhumanisme, cela fait perdre le sens de l'humanité. Chercher à nier ses limites en dévorant tout, jusqu'à ses semblables, dans une frénésie de pouvoir, de prédation, de domination, cela fait perdre le sens de l'humanité. Bien plus que les oiseaux et les lys, l'humain est conscient de sa finitude. Bien plus que les oiseaux et les lys, l'humain peut porter différentes sortes de regards sur lui-même et sur les autres humains ou les autres vivants. Bien plus que les oiseaux et les lys, l'humain peut déployer une dimension d'être particulière, la dimension spirituelle que Jésus raccorde à celui qu'il nomme le Père Céleste. Et c'est à partir de cette dimension-là que l'humain peut résister aux angoisses existentielles de manque et de mort. Pour ceux qui reconnaissent en Jésus de Nazareth le Christ de Dieu, cette résistance porte le nom de Pâques. Et c'est plus qu'une résistance, puisque c'est une victoire. La victoire sur la mort célébrée lors des cultes, chaque dimanche, aujourd'hui, pas seulement une fois par an, le jour de Pâques. La victoire sur la mort, ce n'est pas la fin de la mort. Ce n'est pas l'élimination de la mort. La victoire sur la mort, c'est la fin de la vie dominée par la peur de la mort. C'est la fin de la vie comprise comme la poursuite d'un gain ou d'une proie qui serait la fin de la mort. La victoire sur la mort, c'est la fin de la vie vécue comme la fuite du manque. C'est la fin de la vie dominée par l'inquiétude de soi au profit de l'existence vécue comme quête de justice, service d'autrui, sobriété volontaire, confiance. De quoi Jésus parle-t-il donc en donnant l'exemple des oiseaux et des lys? Dans l'écho du premier chapitre du livre de la Genèse que nous avons entendu se lève un mot. Un mot que toute évocation et toute contemplation de la terre, des lys, des oiseaux, de la nature, des vivants, plantes et animaux, ce mot peut résonner avec force et clarté. Dieu vit que cela était bon. Le poème de Genèse 1 n'apporte pas une information sur la construction physique de la planète et des espèces vivantes. Il n'apporte pas non plus une explication métaphysique surplombant toute possibilité de penser et d'agir. Mais pour l'être humain qui entre dans le mouvement de la création, création qui n'est pas achevée, qui n'est pas une explication de ce qu'il y a, du pourquoi de ce qui est là, le poème souffle inlassablement et très doucement, sans tonitruer, un appel à comprendre la vie, toute vie, comme féconde, bonne, sensée. Dieu n'est pas une explication, mais un appel pour donner sens, pour interpréter le fait d'être vivant, interpréter la vie, pas n'importe quelle vie, moi la mienne, vous la vôtre, chacun la sienne, interpréter le fait d'être vivant. Et la parole qui donne sens dit « bon ». Bon, le ciel, la mer et la terre ferme. Bon, le foisonnement des espèces végétales et animales. Entrer dans la création, c'est déchiffrer cette inscription de bon, de bonté, sur tout vivant, et y répondre d'un oui, d'un d'accord, d'un c'est vrai, amen, par lequel l'existence s'oriente en reconnaissance et en gratitude. Et alors, la quête de la justice participe profondément, intrinsèquement, à la mise en forme, en parole et en acte, de la réponse de l'humain à ce « bon » qui appelle à vivre, à comprendre. Alors, regarder les oiseaux et les lys, c'est regarder ce qui ne compte pas, ce qui n'évolue dans aucun système, aucune logique de prix à payer, d'échanges à équilibrer, évoluer dans ce qui est gratuit. Regardez les oiseaux et les lys, c'est percevoir un éclat de ce royaume qui contredit les manières de vivre du monde et qui rend possible, seulement possible puisque Dieu n'est pas tout puissant, qui rend possible une autre interprétation de l'existence, une autre manière de vivre. Bon, bon, très bon même, souffle le poème, souffle les lys et les oiseaux. Alors oui, à chaque jour suffit sa peine, car il y a de la peine chaque jour. Mais chaque jour est aussi celui où discerner le bon, pour ne pas en rajouter à la peine de chaque jour, à la peine du jour, et répondre ainsi à l'appel de Dieu, l'appel qui est Dieu, l'appel de Jésus-Christ, l'appel à vivre avec courage et avec passion et avec bonté. Car oui, vraiment, cela est bon.